La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Au cours de ces dernières années, il s'agit sans doute d'une des disciplines les plus dynamiques dans le domaine de la biologie, avec les recherches sur le microbiote qui ont fait un bond de géant en révélant donc ce peuple des bactéries avec lequel nous cohabitons. Et c'est d'ailleurs de microbiote au pluriel dont il faut même parler aujourd'hui, puisque ce monde microbien est présent dans de nombreux organes de notre corps. Aujourd'hui démarre à la Cité des Sciences et de l'Industrie apparue une exposition imaginée d'après le charme discret de l'intestin, le best-seller mondial de la jeune médecin allemande Julia Enders est mon invitée dans un instant avec le microbiologiste Joël Doré. Ensemble, ils vont répondre à toutes vos questions sur le site de l'émission. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Les fourmis des jardins face aux infections, c'est la une de la science dans un instant.
Oui Mathieu, une étude suisse qui montre que ces insectes ont des réponses collectives face au risque d'épidémie. Branle-bas dans la colonie, c'est dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupin consacrée aujourd'hui au DMP, c'est le dossier médical personnel. Fanny Boyon est aux commandes de cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Microbiote, c'est donc une exposition à voir en ce moment à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et je salue cet après-midi mes invités qui viennent nous en parler. Julia Enders et Joël Doré. Bonjour à tous les deux. Guten Tag, Julia. Bienvenue. Votre best-seller, Le charme discret de l'intestin, a donc inspiré cette exposition à Paris, qui est un grand voyage dans la flore bactérienne. Ça veut dire que le microbiote n'en finit plus de vous poursuivre, apparemment.
Il me poursuit et je le poursuis à mon tour.
Oui, c'est une passion dévorante pour vous, ce microbiote?
C'est une passion, tout à fait.
On va parler avec une nouvelle édition d'ailleurs de votre ouvrage qui comprend toutes les recherches les plus récentes autour de ce microbiote. Joël Doré, justement, ce livre de Julia Enders, est-ce qu'il a permis justement à la microbiologie de faire là aussi un pas en avant quand même très important en touchant le public?
Il a fait un pas important, mais c'est vraiment en touchant le grand public qu'il a effectivement contribué à cette prise de conscience de... Le fait qu'on est microbien, chacun de nous, qu'on héberge ces 100 000 milliards de bactéries et que c'est essentiel au maintien de la santé, du bien-être. Et donc, Julia a apporté une contribution vraiment énorme.
Ouais, c'est un phénomène assez rare d'ailleurs en science, ce qui s'est passé.
C'est un phénomène rare et en fait, peut-être qu'on verra ça à nouveau dans d'autres domaines. La science évolue très très vite. On a effectivement des écrits dans le grand public qui sont... quotidien maintenant presque. Et de notre côté, en science, on a plus de 200 publications par semaine sur le domaine.
200 par semaine, c'est énorme effectivement. Important. On va se retrouver donc dans un instant pour explorer le microbiote, découvrir l'exposition, évoquer donc les nouvelles recherches qui figurent dans l'édition augmentée de ce livre, Le charme discret de l'intestin, qui est paru chez Actes Sud avec bien sûr les questions des auditeurs.
Notre plan consiste dans l'immédiat à bloquer tous les ponts, les lignes de métro, le réseau ferré entrant et sortant de la ville.
Oui, vous voulez mettre 12 millions de personnes en cage.
Le confinement est notre priorité absolue.
Axel, une étude originale à la une de la science aujourd'hui pour expliquer comment les colonies de fourmis réagissent face au risque d'épidémie.
Oui Mathieu, et un travail qui a demandé aussi beaucoup de patience à l'équipe suisse qui vient de le publier, puisque ces chercheurs ont suivi le déplacement de chacun des individus de 22 colonies pendant 3 jours, soit 2266 fourmis, qu'il a fallu équiper par un petit code-barre pour les reconnaître une par une.
Quel boulot!
Et oui, c'est du travail. Et il montre dans la revue Science que l'organisation interne de toute la fourmilière est modifiée en cas d'infection. Une sorte d'immunité sociale dont nous allons parler avec vous, Stéphanie Stroymet. Bonjour.
Bonjour, c'est Nathalie.
Oh pardon, c'est Nathalie. Vous êtes myrmécologue et post-doctorante à l'Université de Lausanne. Et c'est vous qui avez collé la grande partie de ces petits codes-barres de 1 mm sur le dos des fourmis. À quoi ça vous sert de marquer chaque insecte de la colonie pour étudier leur réaction en cas d'épidémie?
En fait, ça nous permet de suivre leur comportement à tout moment. Et c'est une technique nouvelle qui n'existait pas avant, qui permet vraiment d'obtenir une richesse d'informations sur les contacts et les déplacements de chaque fourmi.
Combien de temps il faut pour mettre un code-barre sur une fourmi?
Ouais.
Alors la vitesse de croisière, c'est à peu près une fourmi par minute.
Ah là là, c'est
bravo.
Bon. Alors une fois qu'elles sont toutes équipées, j'imagine qu'il a fallu déclencher une infection. Vous avez introduit un pathogène dans la fourmilière, comment ça s'est passé?
Oui, alors tout à fait, on a commencé par mesurer le comportement de ces fourmilières en l'absence de la maladie, pour avoir l'organisation de base. Et ensuite, on a prélevé 10% des ouvrières qu'on a pris à l'extérieur du nid. Et ensuite, on les a tout simplement exposées à des spores d'un champignon qui est pathogène pour ces fourmis. Donc on leur a déposé une petite goutte sur l'abdomen, puis on les a retournées à leur colonie.
Qu'est-ce qui leur fait de mal, ce champignon ?
Alors c'est un champignon qui est une maladie commune chez tous les insectes, qui les spores vont se déposer sur la cuticule de l'insecte. Ensuite, vont pénétrer à l'intérieur de l'insecte, se développer et en fait tuer l'insecte pour pouvoir produire de nouvelles spores et se reproduire. Donc c'est une maladie qui est mortelle pour les insectes.
Oui, donc il faut s'en protéger. Et vous avez observé la réaction de la fourmilière pendant 3 jours avec des caméras spéciales qui scannent tous ces codes-barres. Alors on va peut-être passer aux découvertes. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Donc en fait, on a découvert déjà que les fourmis qu'on a contaminées, nous, manuellement, s'isolent du reste de la colonie. Et elles font ça tout de suite, c'est-à-dire dans les premiers 24 heures avant que le champignon ait pénétré à l'intérieur, donc avant qu'elle soit malade. Mmh. Donc on sait que c'est une réaction active, en fait. C'est pas un symptôme d'une maladie, c'est une réponse voulue par les fourmis. Et donc elles s'isolent du reste de la colonie, ce qui diminue le risque de transmission.
Oui, c'est sûr.
Et ça, c'était quelque chose qui était plus ou moins connu. Et nous, ce qu'on a observé qui était vraiment nouveau, c'est qu'il y a aussi un changement de comportement chez les autres fourmis, celles qui ne sont pas contaminées. Donc en fait, on a une organisation chez les fourmis qui est basée en groupe de travail avec les fourrageuses qui vont à l'extérieur chercher à manger et les nourrices qui restent à l'intérieur s'occuper de la reine et des larves. Il y a assez peu de contact entre les deux groupes. Et ça fait un effet d'entonnoir qui réduit le risque de transmission d'un groupe à l'autre. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que quand une maladie est détectée, cette organisation en groupe est renforcée. Et donc cet effet d'entonnoir est aussi renforcé et diminue encore plus la transmission de la maladie.
Comment est-ce qu'une fourmi sait qu'elle est elle-même infectée ou que sa congénère est infectée ?
Alors ça, c'est une question qui n'est pas encore complètement résolue. On sait qu'elle le détecte tout de suite parce qu'on voit les changements de comportement et on a des hypothèses sur les signaux qui le permettent de savoir ça. Donc c'est peut-être une odeur. Les fourmis travaillent beaucoup avec les odeurs qu'elles détectent avec leurs antennes. Mm-hmm. Donc c'est possible que le champignon ait une odeur spécifique ou bien que lorsqu'il se colle à la cuticule de la fourmi, il y a une odeur qui soit produite. Une autre option, ce serait le goût parce que les fourmis se lèchent elles-mêmes et les autres en permanence. Donc elles pourraient prendre ces spores de pathogène dans leur bouche et puis détecter le goût du pathogène. Mais ça, on ne sait pas.
Et vous disiez, Nathalie Streumet, que la fourmi donc sent le pathogène avant même que la maladie soit déclarée, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc nous, on s'est concentré sur ces premières 24 heures avant que la fourmi soit malade, afin de pouvoir étudier les réponses actives des fourmis plutôt que les effets de la maladie elle-même.
Alors vous disiez que les groupes différents dans la fourmilière s'isolent. Quels sont les groupes qui sont protégés à tout prix ?
Alors donc en fait les groupes qui sont les plus protégés sont les fourmis nourrices qui sont aussi les fourmis les plus jeunes et qui sont en interaction constante avec la reine et le couvain. Donc pour les fourmis ce sont des individus qui sont un petit peu plus importants. La reine est vraiment très importante pour la colonie par exemple. Et donc cette organisation en groupe va nécessairement isoler ces nourrices et la reine des maladies qui vont être attrapées à l'extérieur par les fourrageuses.
Est-ce qu'il y a des changements dans ce comportement dont on pourrait s'inspirer, nous, en cas d'épidémie que vous auriez remarqué dans les fourmilières ?
Oh ben pourquoi pas ? Déjà, il y a certaines choses que l'on fait déjà, comme la quarantaine. Oui. Donc, quand il y a une maladie qui est détectée, on essaye de diminuer les déplacements aériens en provenance des zones qui sont infectées. Donc ça, c'est ce genre de mécanisme qui peut être appliqué aussi aux humains.
Alors une très, très, très rapide dernière question. Est-ce qu'il existe des fourmis infirmières ?
Des fourmis infirmières, oui. Donc en fait, les fourmis, dans la mesure du possible, vont essayer de se soigner les unes les autres. Et donc, en ce qui concerne ce champignon, elles vont enlever les spores pathogéniques de la surface d'autres fourmis qui ont été contaminées. Donc elles vont les lécher, les prendre dans leur bouche et les mâcher avec un peu d'acide formique pour tuer en fait ces spores et soigner leurs congénères.
Elles nous fascinent toujours autant, ces tout fourmis. Incroyable. À chaque fois qu'on fait une de la science sur les fourmis, on apprend de nouvelles choses qui sont absolument épatantes. Et c'est grâce à vous, entre autres, Nathalie Streumetz. Merci beaucoup pour ces explications. Joël Doré, est-ce qu'on s'intéresse au microbiote des animaux, d'ailleurs? Il y a des recherches qui sont menées?
Oui, tout à fait. On étudie le microbiote des animaux.
Pas des fourmis,
vaches, par exemple.
Pas des fourmis
encore.
Et puis,
si les insectes aussi nous intéressent, bien sûr, on a pu caractériser le microbiote, par exemple, dans le détail de termites, qui sont xylophages, donc qui mangent le bois.
Le bois.
Et notamment, de caractériser des micro-organismes particuliers qui leur donnent cette aptitude à valoriser la cellulose et les composés du bois.
Allez, on reste avec vous dans un instant sur le microbiote humain. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Avec une autre une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la COP24 est bel et bien lancée depuis hier, donc jusqu'au 14 décembre. La Pologne accueille cette 24e conférence sur le climat des nations. Lors de l'ouverture hier, le célèbre naturaliste anglais David Attenborough a déclaré « Nous sommes confrontés à un désastre provoqué par l'homme et d'envergure mondiale. Notre plus grande menace depuis des milliers d'années, c'est le changement climatique. » Les singes hurleurs du Costa Rica jaunissent en raison des pesticides, normalement noirs ou bruns foncés. Ces petits singes voient de plus en plus leur fourrure se tachetait de jaune. Des biologistes ont cherché à savoir en détail ce qui se passait et leurs conclusions publiées dans la revue Mammalian Biology sont formelles. C'est le soufre contenu dans les pesticides utilisés par les hommes qui modifie la structure pigmentaire de leur peau. La mélanine se transforme en îlot, en phénomélanine qui leur donne donc ces taches jaunâtres. Et puis pour terminer, les chercheurs de la NASA ont compté la quantité de lumière que contient l'univers grâce aux observations de 734 quasars qui sont les objets les plus lumineux observables dans l'univers par le télescope Fermi, donc ça s'est passé récemment. Les scientifiques estiment que le nombre de grains de lumière appelés aussi photons est de 4, suivi de 84 zéros. Ce chiffre inimaginable représente la lumière émise par toutes les étoiles pendant 90% de la durée de vie de l'univers. Allez, le microbiote dans un instant. Oh, Et c'était Beyrouth avec un nouvel album, Gallipoli à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, Microbiote, c'est donc une exposition qui commence aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, qui s'inspire donc de ce best-seller Le Charme Discret de l'Intestin, publié chez Actes Sud, et dont les auteurs sont Julia et Jill Anders. Julia est avec nous, vous êtes docteur en médecine depuis novembre 2016. Vous poursuivez d'ailleurs vos recherches actuellement, toujours, Julia Anders?
Oui, effectivement, en ce moment, je suis plutôt active dans l'hôpital.
Oui.
Pour apprendre mon métier pour de vrai.
Dans quel domaine exactement est-ce que vous êtes alors ?
Gastro-entérologie, bien sûr.
Évidemment. Joël Doré, vous êtes chercheur en microbiologie intestinale, directeur de recherche à l'INRA et directeur scientifique de l'unité Métagénopolis. Et c'est Maria-Thérèse Schmitt qui assure la traduction de cet entretien. Alors justement, quels sont vos domaines de recherche exactement sur le microbiote, Joël Doré, pour qu'on comprenne bien vous ce qui vous intéresse dans ce fascinant peuple microbien?
Alors je travaille à l'INRA depuis 34 ans maintenant et ça fait 34 ans que je travaille sur le microbiote intestinal.
Ah ouais.
J'ai commencé ma carrière en m'intéressant plutôt aux microbes de l'intestin animal, ouais, et notamment le rumen des bovins et des ruminants en général. Et depuis les débuts des années 90, en fait, je travaille sur le microbiote intestinal humain, beaucoup en relation avec des collègues cliniciens, gastro-entérologues notamment. Et la relation entre le microbiote, l'aliment et l'homme, et notamment l'importance que ça peut revêtir en termes de préservation de la santé, du bien-être chez l'humain.
Mais qu'est-ce qu'on connaissait du microbiote humain en 1990 alors ? Parce que Julia raconte dans son livre que quand elle a commencé à écrire il y a 6-7 ans, il y avait assez peu de publications, mais alors en 1990 ?
Alors en fait, à partir des années 60 à peu près, on a su, grâce aux travaux de Pasteur et à des travaux américains, cultiver les bactéries anaérobie, puisque le côlon intestinal est un compartiment où il n'y a pas d'oxygène. Et donc, c'est des spécificités assez particulières qu'il a fallu maîtriser au laboratoire pour être capable de faire pousser les bactéries sur nos boîtes de pétri. Et on les connaissait par la culture et on savait qu'il y avait une limite majeure à cette situation et on prenait en compte à peu près 20% des bactéries intestinales dominantes. Et donc, on a développé des outils moléculaires et le tournant s'est fait à peu près dans les années 80, en fait, où on a commencé à analyser le microbiote en étudiant leur équipement génétique, comme on étudie le génome humain, avec tout d'abord, pendant 20 ans pratiquement, une étude basée sur un seul gène qui était un marqueur de l'évolution. Et puis, une grande révolution, à nouveau, au début du siècle à peu près, où l'INRA d'ailleurs était en situation leader dans ce domaine, où on a développé ce qu'on appelle la métagénomique, qui consiste à caractériser l'intégralité des gènes des micro-organismes dominants de cet écosystème avec lequel on interagit en permanence.
Donc là, on est au début des années 2000, en fait, c'est ça ?
Voilà, le vrai tournant de la métagénomique est le début des années 2000, et l'INRA était leader. On a même porté, à partir de 2008, un projet européen qui a été vraiment phare dans le domaine, qui s'appelait Metait et qui était porté par mon collègue Duschko-Herrlich et qui nous a conduit à vraiment revisiter complètement le microbiote intestinal avec un niveau de résolution jamais égalé auparavant.
Oui. Julia Anders, justement, vous rappelez hein, dans cette nouvelle édition de votre ouvrage, Le Charme Discret de l'Intestin, qu'en 2013, lorsque vous étiez en train de rédiger la première version du livre, il y avait tout un pan, finalement, de la recherche qui n'existait pas sur les relations entre le microbiote et le cerveau, par exemple.
Effectivement, il y avait quelques connaissances, mais il y avait surtout beaucoup de théories et beaucoup de tests avec des souris. Et depuis, on a commencé à faire beaucoup plus de protocoles de scientifiques avec l'homme et ça nous a donné plus de résultats.
Oui.
Il y a effectivement beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet. Ils savent que l'homme a une véritable collection de bactéries et on a commencé à y regarder de plus près.
Ouais. Ça vous a étonné finalement ce foisonnement là, de publications scientifiques auquel on assiste depuis quelques années seulement? Ça va extrêmement vite quand même. Hein.
Non, cela ne m'a pas surprise. Au contraire, c'était mon espoir qu'on voit beaucoup plus de publications, qu'on s'y intéresse plus. Et mon véritable moment de surprise avait eu lieu quelques années auparavant, lorsque j'ai découvert ce domaine. J'étais déjà en train de faire mes études de médecine et personne ne m'avait expliqué qu'il y avait un certain nombre de scientifiques qui s'intéressaient déjà à ce sujet.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'au départ, finalement, vous vous êtes soigné vous-même grâce au microbiote, en prenant connaissance, en tout cas, de l'importance du microbiote sur la santé ?
Je pense que c'est une partie très importante, c'est vrai, mais à l'époque, je n'étais pas encore scientifique, donc j'ai du mal à avoir une opinion objective à ce sujet.
Joël Doré, justement, vous qui êtes chercheur donc depuis autant d'années dans ce domaine du microbiote, est-ce que vous vous souvenez de la sortie du livre de Julia Anders quand il est arrivé là ?
Bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement en lisant cet ouvrage, en le voyant en tout cas arriver ?
Bah, formidable, pour faire simple, et dans la mesure où, effectivement, Julia a été capable de capturer un ensemble d'informations et de les rassembler et de les donner à voir au grand public. Et c'était vraiment quelque chose dont on pouvait rêver, puisqu'on commençait à voir la relation entre le microbiote intestinal et un grand nombre de maladies, en fait, qui sont des grandes maladies de société moderne, qui augmentent en incidence depuis maintenant 60 ans. Et voilà, on observait cette relation, cette détérioration de la symbiose entre l'homme et ses microbes dans ces maladies. On se disait, il y a vraiment quelque chose d'important ici, et il est important que les gens sachent que l'homme est microbien, finalement, qu'on ait des symbioses, et que c'est ça qui compte pour le maintien de la santé et du bien-être.
Est-ce qu'il y a un portrait maintenant dans tous les laboratoires de microbiologie de Julia Anders et de sa sœur pour les remercier d'avoir fait autant de boulot pendant toutes ces années, ou pas ?
Je pense que tous les labos ont le bouquin de Julia Anders, c'est sûr, et c'est vraiment bien qu'elle ait accepté de contribuer au montage de l'expo Le Microbiote avec la Cité des Sciences pour finalement permettre cette plongée dans nos intestins et cette découverte de la relation entre l'homme et ses microbes.
Donc le tour du monde du microbiote se poursuit, Julia Anders, non seulement avec le livre qui a été traduit en 40 langues, mais aussi maintenant, donc avec cette exposition. Racontez-nous comment vous avez travaillé justement pour qu'elle naisse.
Ma sœur et moi-même, nous étions tout d'abord très curieuses. Nous avons discuté sur les sujets qui nous semblaient importants et nous avons évidemment regardé les différents projets et nous avons fait nos petits commentaires à chaque fois. Ma sœur, elle dessine, elle a aussi produit des nouveaux dessins pour l'exposition et à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'y mettre notre grain de sel, on l'a fait.
Donc ça a été évidemment beaucoup de propositions pour vous et il y a eu une construction que vous avez souhaitée pour emmener les visiteurs justement là presque physiquement à la découverte du microbiote intestinal.
On voulait le faire à peu près comme dans le livre, c'est-à-dire en trois parties. C'est-à-dire d'abord, on regarde quels sont les organes, pourquoi ils sont bizarres, pourquoi ils ont l'air aussi curieux, comment ils fonctionnent. Et ensuite, on va plus dans le détail et on découvre qu'il y a encore d'autres habitants dans ces organes et quel est ce peuple, quelle est cette population bactérienne. Est-ce que c'est quelque chose dont je dois tenir compte lorsque je mange, lorsque je me nettoie, lorsque j'exerce ma vie quotidienne, tout simplement.
Joël Doré, vous avez aussi travaillé sur l'exposition.
Oui, j'ai travaillé moi-même, mais surtout de très nombreux collègues de l'INRA, en fait, ont contribué en apportant à la fois des informations, en traduisant ce que la science nous instruit aujourd'hui et en le rendant accessible au grand public, et puis également en participant à la construction des animations qui vont durer pendant toute l'expo en France jusqu'à août l'année prochaine. Voilà. Ouais.
On découvre l'exposition avec vous cet après-midi dans La Tête au Carré et vous répondez à toutes les questions des auditeurs qui arrivent au sujet du microbiote sur franceinter.fr.
On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
La Rose, c'était la voix de Natacha Atlas.
La tête au carré. Sur France Inter.
À l'INRA, Duschko Erlich tente de mieux comprendre cette population mystérieuse et pour cela, il a décidé d'étudier le génome de notre microbiote en entier. Le résultat de ce travail titanesque a abouti en 2010 lorsque les chercheurs ont publié la carte du génome bactérien de l'homme. Ils ont abouti à un catalogue de 3 millions de gènes. Et ce chantier gigantesque a débouché sur une découverte surprenante.
Nous, les humains, pouvons être répartis en trois groupes selon la population microbienne qui vit dans notre intestin. Nous avons baptisé ces groupes les entérotypes.
Donc, en plus des groupes sanguins, nous sommes divisés en trois groupes de bactéries intestinales. Leur différence réside dans leur capacité à convertir la nourriture en énergie. Les trois produisent des vitamines, mais à des degrés différents.
Les entérotypes ne semblent liés ni à une situation géographique, ni au sexe, ni à l'âge. Vous pouvez avoir un entérotype bien plus proche d'un Japonais que de votre voisin de palier.
Voilà, extrait d'un documentaire qui s'appelle Le ventre, notre deuxième cerveau, qui avait été diffusé sur Arte en 2013 pour parler donc du microbiote cet après-midi avec mes invités Julia Enders et le chercheur Joël Doré. Alors justement, Joël Doré, un mot quand même sur ce séquençage du génome bactérien. Au sujet des entérotypes, là, c'est quoi? C'est une sorte de carte d'identité finalement complémentaire de notre groupe sanguin?
Alors en fait, avec les premiers catalogues de gènes du génome, du métagénome intestinal, on pensait pouvoir identifier l'individu moyen autour duquel on imaginait se répartir la population humaine. Et en fait, ce qu'on a observé, ce faisant, c'est qu'il n'y a pas un individu moyen, il y a une hétérogénéité importante dans la population. Il y a surtout trois écologies, trois organisations de microbiotes différentes qui ont été documentées et publiées donc en 2011, qu'on a appelées entérotypes, et qui correspondent au fait que les bactéries elles-mêmes, elles s'organisent, elles peuvent travailler en synergie ou au contraire en antagonisme, et donc construire une communauté fonctionnelle qui peut différer d'un individu à l'autre. Ce qu'on a montré aussi depuis, c'est que un individu donné peut, à travers des changements alimentaires ou un traitement antibiotique par exemple, passer d'un entérotype à un autre. Donc c'est pas quelque chose de fixé,
c'est ça,
de façon définitive.
Voilà, c'est pas des groupes comme ça très distincts. On peut justement évoluer, et c'est ça aussi tout l'intérêt de Julia Anders du microbiote, c'est son évolution tout au long de la vie. Sur l'évolution du microbiote intestinal, Joël Doré nous disait qu'il peut changer au cours de la vie entre un enfant justement et un adulte. Il y a des changements de microbiote.
Par exemple, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, le microbiote commence à se fixer, à être un peu équilibré. Auparavant, il peut changer tous les jours quasiment. Et lorsque on avance dans l'âge, il y a, on va dire, des seuils d'âge. On peut aussi, par exemple, parler d'un microbiote senior.
Ouais.
Et les questions très intéressantes se trouvent en fait entre ces deux moments du temps. Qu'est-ce que fait, par exemple, lorsque nous voyageons dans les pays lointains pendant les vacances, comment ça influence sur notre microbiote ou notre mode de vie, tout simplement?
Ça veut dire que le microbiote intestinal est très perméable, Joël Doré, à l'environnement, alors au sens très large, hein, parce que l'environnement, c'est l'alimentation,
Bien sûr,
par exemple, le fait de changer d'aliment.
Il est plastique, hein, c'est sûr qu'on n'a pas aujourd'hui encore beaucoup de clés pour changer le génome humain après la naissance. Par contre, le métagénome, donc ces gènes qui sont portés par nos micro-organismes, sont malléables. L'alimentation est un levier majeur, en fait. Hein, on peut agir à travers notamment la composante végétale de l'alimentation et les fibres, qui sont une source de carbone et d'énergie pour nos microbes, une source importante. Et par contre, à l'opposé, il est aussi capable de réagir à des traitements, les antibiotiques notamment, on l'a évoqué, et puis aussi des composés de la chimie à laquelle on est exposé et auxquels nos ancêtres étaient un petit peu moins exposés que l'on est aujourd'hui.
Mais cette faculté d'adaptation ou de changement, en tout cas du microbiote, elle est très très rapide justement. Dès lors qu'on change une habitude, microbiote aussi est en changement.
On a des collègues américains qui ont documenté ça et qui ont montré que 2 jours après un changement alimentaire important, on a déjà une trace de modulation fonctionnelle et en composition du microbiote intestinal. Donc il peut réagir assez vite.
Julia Anders, vous qui êtes médecin quand même, on peut le rappeler, est-ce que depuis la sortie du livre, les gens vous demandent sans arrêt des conseils pour avoir un bon microbiote ?
Tout d'abord, je dois dire qu'un grand nombre de mes patients ne me reconnaissent pas. Ils sont, disons que je suis en train de faire une prise de sang, et ils ont le livre dans l'autre main, ils regardent par la fenêtre, ils ne voient même pas que c'est moi. Mais pour moi, c'est évidemment plus intéressant d'observer les patients. Et l'hôpital où je travaille, nous faisons par exemple aussi les transplantations du microbiote ou la transplantation fécale en cas de diarrhée grave qui menace la vie. Et dans ce cas-là, c'est vraiment très intéressant ce qui change autre que l'arrêt de la diarrhée qu'on obtient par cette thérapie. Et d'être en première ligne pour pouvoir observer ce genre d'évolution, c'est pour moi vraiment la chose la plus intéressante.
Pourquoi justement est-ce qu'on procède à ces greffes fécales, en particulier dans le cas de la diarrhée? À quel moment justement est-ce qu'on procède à cette opération?
Il faut d'abord être très très prudent parce que nous ne savons pas quelles sont les conséquences à long terme. On peut aussi, par mégarde, transplanter des bactéries qui seraient éventuellement nocives. Donc on doit être vraiment très sérieux, peser le pour et le contre avant de décider s'il faut faire une telle greffe ou pas, et seulement si aucun antibiotique n'a fonctionné auparavant.
Joël Doré, un commentaire sur ces greffes, justement?
En fait, c'est un traitement reconnu par les agences réglementaires dans une seule indication, qui est la colite récidivante à Clostridium difficile. Et la science a été vraiment assez bouleversante de ce point de vue-là, puisqu'on a pu montrer que, alors que l'antibiotique de dernier recours chez les personnes qui sont résistantes à un traitement antibiotique guérit 30% des patients, alors que la transplantation fécale guérit plus de 90% des patients. Il y a peu de médicaments qui marchent aussi bien.
Ouais.
Donc ça s'est beaucoup développé et c'est reconnu comme un traitement dans la colite à Clostridium difficile et uniquement dans cette indication. En termes de recherche, il y a énormément de travaux. Mmh. Et la France n'est pas en retard de ce point de vue-là, en fait. Mon collègue Harry Sokol, qui travaille à la fois pour la PHP, l'Assistance publique et l'Hôpital de Paris, l'INSERM et l'INRA, a des travaux en ce moment dans le contexte des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et une petite société française, Mad Pharma, développe et standardise la façon de préparer le contenu intestinal humain pour en faire un vrai médicament pour demain.
Pour les problèmes justement d'immunité, est-ce qu'on utilise aussi ce type de procédé pour renforcer le système immunitaire ou pas ?
En fait, dans les dérèglements qu'on a pu observer et documenter dans les grandes maladies de société, ce que l'on voit, c'est qu'il y a à la fois une altération du microbiote, mais aussi, du côté de l'homme, on va dire, une hyperperméabilité intestinale, une inflammation, effectivement. Donc, on retrouve l'immunité avec l'inflammation et un stress oxydant qui est associé à l'immunité. Ces éléments pouvant s'entretenir dans un cercle vicieux. Donc, l'objectif qu'on peut se donner aujourd'hui, reconnaissant l'homme comme un individu microbien et comme une symbiose, c'est d'agir sur les différents leviers. L'immunité est un levier. Et effectivement, la médecine traditionnelle, j'ai envie de dire, regarde les symptômes et les organes et, dans le contexte de l'inflammation, va gérer l'inflammation. Aujourd'hui, on a probablement la possibilité d'agir grâce au microbiote comme un levier supplémentaire, finalement, sur cette relation intime qu'est la.
Donc, on peut le faire pour les personnes immunodéprimées, par exemple, ou pas? Est-ce que c'est déjà pratiqué ou ce sont encore des pistes de recherche?
Alors, non, c'est seulement des pistes de recherche et je pense que le contexte des personnes immunodéprimées est pas en première ligne par rapport aux grandes maladies de société comme certains cancers ou les maladies inflammatoires ou les maladies métaboliques aussi. Où on a commencé à explorer la possibilité d'agir.
Est-ce qu'il faut faire attention quand même, Julia, en ce moment, à ne pas faire du tout microbiote, comme on a pu faire du tout génétique à une époque, et voir finalement, dans quasiment toutes les pathologies, un lien avec, par exemple, la flore intestinale ?
C'est vrai qu'il faut garder dans l'idée qu'un corps, c'est toujours quelque chose de complexe et chaque maladie a des axes d'évolution différentes. À l'époque, on était fascinés par le décodage du cerveau, du génome, etc. Aujourd'hui, c'est au sujet du microbiote. Mais nous savons déjà qu'on peut plus facilement prendre influence sur le microbiote que sur les gènes. C'est donc une part qui contribue à la joie de cette connaissance et qu'on a vraiment une nouvelle façon de pouvoir regarder les maladies d'un autre angle.
Joël Doré, il y a un travers dans lequel il ne faut pas tomber quand même aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que l'éventail des pathologies semble très large, en lien donc avec le microbiote, mais il faut être très prudent quand même par rapport à ça, non?
Bien sûr, on identifie en fait des signatures d'altération quand on regarde le microbiote avec le niveau de détail qu'on est capable de mettre en œuvre aujourd'hui. Cependant, il ne faut pas effectivement imaginer qu'on va pouvoir guérir toutes les maladies qui sont très souvent, même associées au microbiote, incurables encore aujourd'hui. Donc il ne faut pas donner des espoirs démesurés. La connaissance et la reconnaissance de l'homme comme un être microbien est importante. Elle nous permettra de faire des progrès dans la nutrition préventive, dans la médecine. Mais on ne guérira pas tout.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion autour du microbiote.
Des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser. Observe qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école. T'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter. Maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. silence, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit rêvé. Laissez le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé.
En vacances, et c'est pour bientôt. Séverin à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, actualité autour du microbiote avec donc cette exposition qui commence aujourd'hui à la Cité des sciences et de l'industrie. Vous aurez jusqu'au mois d'août pour aller voir cette expo qui s'inspire largement de ce livre, Le charme discret de l'intestin, qui ressort d'ailleurs chez Actes Sud, Julia Enders, avec une nouvelle édition augmentée, ce qui fait que vous avez rajouté finalement les études qui vous semblaient le plus important depuis l'écriture du premier jet, hein.
Effectivement, j'ai ajouté deux choses. Tout d'abord, le chapitre sur l'axe intestin-cerveau, parce que là, c'était un vrai obstacle qu'il fallait que je surmonte. J'étais devant la page blanche et ma sœur m'a dit « Écris tout simplement ce que tu sais jusqu'à maintenant ». Ma peur consistait à dire « Je parle de choses qu'on ne connaît pas encore assez, ça effraiera les gens parce qu'on n'a pas des résultats précis en termes de recherche, mais je voulais quand même dire que ça existe et je voulais faire passer le message que nous cherchons sur cet axe très intéressant. Mais je voulais pas dire de fausses informations. Et ma sœur m'a rassurée, elle m'a dit, le jour où tu sauras en dire plus, tu écriras un nouveau livre. Et donc, c'est une promesse que nous nous sommes donnée à nous, entre sœurs. Nous l'avons tenue en faisant simplement cette édition augmentée. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent, par exemple, aux probiotiques. Et là, nous voulions rajouter qu'il ne suffit pas simplement les acheter, c'est pas forcément la bonne solution, mais qu'on peut, en faisant sa cuisine, trouver des astuces qui fonctionnent bien, comme par exemple la choucroute.
Vive la choucroute maison, ou comment se faire du bien avec des légumes fermentés. C'est signé évidemment par un auteur allemand que vous êtes. On ne pouvait pas se passer de la choucroute. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions sur les probiotiques de la part des auditeurs de la Tête au Carré. Joël Doré, est-ce pertinent de prendre une complémentation en probiotiques, demande Mathieu sur le site. Même chose de Martine. Ces probiotiques vendus en pharmacie sont-ils efficaces pour améliorer notre flore? Alors on fait le point là-dessus.
Alors on parle de deux choses assez différentes en fait. Hein. Le probiotique peut être présent dans l'aliment, notamment fermenté bien sûr, donc on parle de la choucroute, du yaourt, du kéfir, et par ce biais-là peut apporter des effets intéressants, mais c'est vraiment dépendant de la souche en fait, c'est ce niveau très très fin de connaissance de la bactérie qui est déterminant dans les effets qu'on peut en attendre. Et normalement la référence devrait être l'Agence européenne de santé et sécurité des aliments qui depuis 2006 est en charge de nous dire si les probiotiques alimentaires ont des effets bénéfiques. C'est pas quelque chose qui marche très très bien malheureusement au niveau européen aujourd'hui.
Ouais.
L'autre volet, c'est la pharmacie, où on a une multitude de produits qui sont en vente libre, qu'on doit effectivement acheter et qui sont pas remboursés. Et pas tous, hélas, appuyés par de la connaissance scientifique. Et donc, la référence dans le domaine devrait être les sociétés savantes qui, elles, font ce travail de tri de l'information et de validation. Mmh. Alors, elles nous disent que dans certains domaines, comme les gastro-entérites, par exemple, ou comme la diarrhée du voyageur, ou comme le syndrome de l'intestin irritable, il y a effectivement des souches qui ont été testées dans des essais randomisés, contrôlés, donc de très haute qualité et qui fonctionnent.
Ouais. Mais c'est incroyable le nombre de questions qu'on a autour des probiotiques. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du public? Parce qu'il y a la publicité qui s'en est beaucoup emparée.
La publicité qui nous a vendu des choses en allant du vent, un petit peu trop loin. Non, pas sur du vent. Il y avait effectivement déjà de la science depuis très longtemps. Et par contre, ben voilà, on ne peut pas faire croire. Donc il faut qu'il y ait effectivement des données scientifiques vraiment solides pour pouvoir alléguer des effets santé. Malheureusement, pour le probiotique alimentaire, ce mécanisme-là ne fonctionne plus vraiment.
Julia Anders, sur les maladies psychiques, est-ce que là aussi, il y a une littérature scientifique autour des effets, précisément, des bactéries intestinales?
Effectivement, il y a des études qui étudient ce qu'on appelle les psychobiotics. Ce seraient donc des bactéries qui influent sur notre humeur, sur notre bien-être. Lorsqu'on regarde par exemple des sondages, on constate que les personnes se sentent à peu près 15% moins stressées après avoir pris tel ou tel probiotique. Mais ce que l'on observe aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se stressent tout simplement par la peur de tomber malade et qu'à la fin, ils prennent tellement de probiotiques qu'ils ont une surpopulation de bactéries dans leur microbiote. Il faut donc trouver le juste équilibre.
Dans le domaine de l'autisme, il semblerait qu'on puisse trouver une piste bactérienne. On va écouter l'extrait d'un reportage sur la question que vous commenterez juste après Joël Doré.
En Europe, on a constaté que l'autisme frappait davantage les gens venus d'Afrique, des Antilles et d'Asie. À tel point que les Somaliens l'appellent la maladie de l'Occident. Adar Hassan vit à Toronto. Elle a 4 enfants, dont 2, Abshir et Ali, sont autistes. Bébé, ils se développaient normalement l'un comme l'autre. Pour Ali, tout a commencé après une série de traitements aux antibiotiques pour des otites et des bronchites récurrentes.
Il s'est mis à refuser de m'approcher. Il pleurait tout le temps et se cachait sous la table.
70% des enfants atteints d'autisme souffrent également de troubles gastro-intestinaux, dont la gravité est proportionnelle à leur degré d'autisme.
Nous avons adopté le régime alimentaire occidental. Mais quand mes fils ont été diagnostiqués, je me suis renseignée. Et il s'avère que ce qu'il leur faut, c'est une cuisine plus traditionnelle, saine, à base de produits frais.
Aujourd'hui, Abshir et Ali ont moins de problèmes de santé. Ils ont une meilleure capacité d'attention et sont moins agités.
Alors, Joël Doré, comment interpréter ce qu'on vient d'entendre et quelles sont les pistes sérieuses, là aussi, sur un lien possible entre l'autisme et le microbiote?
Alors, j'ai envie de dire, pour commencer, que la science en est à ses tout débuts, en fait. Même si on a documenté depuis maintenant plus de 25 ans une relation possible entre l'autisme et une altération du microbiote intestinal, le terrain qu'on arrive à construire aujourd'hui est le fait qu'on observe à la fois une altération du microbiote et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une perméabilité ou une hyperperméabilité intestinale, une inflammation, souvent du stress oxydant. Et c'est en fait ce qui se traduit par des observations, des témoignages que l'on peut obtenir de parents, comme c'était indiqué dans le reportage, qui finalement arrivent à travers des modifications de l'alimentation, l'apport de certains probiotiques quelquefois, à vraiment améliorer beaucoup le contexte de la symbiose, en fait, de la relation entre leurs enfants et leur microbiote intestinal. Il y a un besoin majeur de construction de connaissances, on doit vraiment le dire aujourd'hui. On travaille sur cette question-là. J'ai personnellement obtenu un financement de la Fondation Marcel Dassault pour travailler sur l'autisme avec des collègues cliniciens de l'hôpital Henri Mondor et Chennevières à Paris.
Combien de patients autistes est-ce que vous allez suivre?
Là, on va travailler sur 150 patients autistes Asperger, donc parce que c'est plus compliqué un petit peu de travailler sur les enfants, mais il y a vraiment matière à continuer à construire cette connaissance, et notamment le fait que dans l'autisme, on observe très souvent une symptomatologie intestinale, en fait, des douleurs abdominales, par exemple, des enfants, ou une perturbation du transit intestinal, qui sont, pour moi, des signes vraiment majeur du fait qu'on a une altération du bien-être intestinal et donc de la symbiose. Et dans un contexte comme ça, l'alimentation peut être un des leviers importants à utiliser. On ne va pas, encore une fois, comme on le disait, guérir nécessairement, mais on va améliorer beaucoup le contexte dans lequel sont les patients.
Donc des recherches à suivre, hein, en tout cas de très près.
Tout à fait.
Julia Anders, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle médecine avec le microbiote justement et les connaissances dont on dispose là ?
Tout d'abord, je trouve très intéressant qu'on change notre façon de penser depuis qu'on a ces connaissances sur le microbiote, parce qu'on ne regarde plus simplement ce qui ne marche pas, ce qui est cassé, ce qui est endommagé, parce que parfois on ne trouve pas de bactéries qui expliqueraient pourquoi ceci ou cela ne fonctionne pas. L'intérêt, c'est de regarder ce qui nous protège, regarder les choses positives qui sont pour notre bien-être, pour notre santé. Et cette nouvelle approche de chercher ce qui nous fait du bien plutôt que de savoir ce qui est la raison du mal, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et il faut aussi avoir une approche pragmatique et, par exemple, de veiller en cas de prescription d'antibiotiques, quels peuvent être les effets secondaires sur la flore intestinale, le microbiote et d'autres, pour choisir si l'indication est vraiment bonne et donc tenir compte du microbiote dans toutes les prescriptions.
Justement, sur les antibiotiques, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, Joël Doré ? Après un traitement long en antibiotiques, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la flore intestinale ?
Alors, on a beaucoup de données sur un traitement unique, classique, de quelques jours, qui nous disent que le microbiote est résilient. C'est-à-dire qu'il est capable de se reconstruire pratiquement à l'identique. Et par contre, on a maintenant des données, notamment des travaux de Martin Blazer aux États-Unis, qui montrent que des traitements chroniques, répétés, longs, vont perturber potentiellement de façon définitive le microbiote.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. En ce moment, donc, cette exposition Microbiote à voir à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui évidemment s'inspire de votre livre Le Charme Discret de l'Intestin de Julia Anders, qui vient de sortir chez Actes Sud. On a demandé des nouvelles de votre sœur, elle va très très bien, mais elle est restée en Allemagne. Je crois qu'elle attend un enfant, hein, c'est bien ça. Et puis Joël Doré, cette exposition, vous y avez également participé. Je sais que vous êtes en train d'écrire un livre sur le microbiote. On vous souhaite le même succès que Julia Anders.
Merci.
Pour vous préparer une belle retraite de chercheur. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus cet après-midi dans La Tête au Carré. Merci beaucoup et merci à Marie-Thérèse Schmitt qui assurait la traduction.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Votre polémique du jour concerne le DMP.
Oui Mathieu, le DMP, tantôt dossier médical personnel, tantôt dossier médical partagé, est un projet lancé officiellement en 2004 par Philippe Douste-Blazy. Il s'agissait, et il s'agit toujours, d'héberger nos données de santé sur les serveurs centralisés afin de permettre un meilleur suivi médical et des économies en évitant les examens redondants.
Bon, l'idée est plutôt bonne, non, au départ
hein. Ouais, bah, c'est le piège hein, dans ce type de projet. Ça paraît une évidence et l'enfer n'apparaît qu'après la bonne intention. Hein.
Bon.
Souvenez-vous du projet Louvois, destiné à uniformiser les systèmes de paye des militaires, ça paraissait logique comme ça. Eh bien, il a été lancé en 96 et a abandonné en 2014 et aura coûté 500 millions d'euros.
Ouf.
Et ce n'est pas un cas isolé. Alors, le DMP est annoncé en fanfare tous les 3 ans depuis 2004. Ça ne marche pas, on change les équipes et on recommence. L'addition s'alourdit à chaque cycle et il s'agit là aussi de centaines de millions d'euros.
Alors, où est le problème exactement ?
C'est un sujet très complexe. Les équivalents du DMP lancés dans d'autres pays peuvent aussi bien être des succès que des échecs. Succès en Estonie, alors que les Anglais, qui avaient pourtant démarré avant nous, l'ont abandonné. Google avait lancé l'équivalent en 2008 avec Google Health, plus performant à l'époque que le DMP français actuel, avant de le fermer face à l'absence d'intérêt des utilisateurs. Alors, j'ai cherché en vain une étude récente sur les déterminants de ces succès et de ces échecs et j'allais renoncer à me faire une opinion quand mon ami Philippe Hamelin, un ingénieur qui suit le DMP depuis son origine, a analysé son échec programmé dans un article détaillé et surtout féroce puisque son titre est « Le DMP, un mauvais concept porté par le mauvais acteur au mauvais moment ».
Oui, ça sent mauvais effectivement.
Oui, c'est pas terrible. Gentil. Ouais. Mais c'est bien argumenté. C'est un mauvais concept car en fait il n'a quasiment pas évolué techniquement depuis 2007. Or, La réussite d'un tel projet suppose une réflexion longue et une modification forcément lente des logiciels utilisés par les médecins, les laboratoires d'analyse et les hôpitaux qui sont censés alimenter le DMP en données médicales. Alors au lieu de ça, chaque nouvelle équipe a annoncé une généralisation dans les 2 ans, ce qui est tout simplement impossible. Le DMP reste donc essentiellement un empilement de documents disparates, difficiles à consulter. Y accéder n'est pas simple, hein, car l'hébergement centralisé d'informations aussi sensibles impose des contrôles d'accès très stricts, dignes de la paranoïa des sites bancaires. Mauvais acteur, ensuite, Philippe Hamelin, soulignant que l'assurance maladie est avant tout un assureur et que lui confier la gestion des dossiers médicaux pose ou posera problème. Il n'y a pas de pouvoir qui finisse en abus et utiliser le DMP pour surveiller les dépenses sera trop tentant pour que l'assurance maladie, qui en possède la clé, résiste durablement à l'envie d'y accéder. Et enfin, ce DMP sort au mauvais moment, car les médecins généralistes censés rédiger les synthèses annuelles pour rendre le DMP utilisable sont débordés et renâclent déjà. Alors bon, c'est pas facile hein, de résumer en 3 minutes le long article de Philippe Hamelin, mais ceux qui hésitent à ouvrir un DMP, car c'est une démarche volontaire, hein, peuvent le lire sur mon site atout.org.
Bon, c'est pas très engageant en tout cas. Merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine.